CQFD.
Il est 10h20 sur la première dans CQFD. Demain, mardi 27 septembre, aura donc lieu la campagne mondiale de lutte contre la douleur avec un point fort cette année sur la douleur articulaire. Et c'est un thème qui sera traité notamment au CHUV dans le cadre d'une conférence publique qui a retenu votre attention, Macamis.
Mais oui, parce que les douleurs articulaires sont d'origine variée, nombreuses même, et elles peuvent être dues à une arthrite, à une arthrose, à un traumatisme ou encore à des dépôts de cristaux. Elle touche aussi bien les personnes âgées que les plus jeunes, voire même les enfants. Bref, plein de douleurs différentes, mais toujours est-il qu'une articulation qui fait mal, c'est une articulation qu'on a tendance à utiliser de moins en moins. Ce qui aura un impact sur la façon dont la personne bouge, et ce qui aura un grand impact et une diminution sur la qualité de vie de la personne mal. Donc, voilà, ça c'est un constat, et aujourd'hui on dispose de toute une palette de moyens pour traiter cette fameuse douleur articulaire. On va donc se pencher ce matin sur la combinaison entre des traitements contre la douleur et la réhabilitation, en particulier dans le cadre des maux de dos, mais pas seulement, vous allez voir, ça va être passionnant.
Et pour ce faire, avec nous ce matin en studio, Marc Souter, médecin associé au centre d'ontalgie du CHUV, bonjour.
Bonjour.
Et Yon Norberg, médecin chef de clinique adjoint en réhabilitation au CHUV également, bonjour à vous aussi.
Bonjour.
Alors Marc Souter, les douleurs articulaires, ça peut arriver à tout le monde finalement?
Oui, ça peut arriver à tout le monde et c'est même très fréquent. On a des chiffres de l'ordre de 10-20% dans la littérature et on a même des chiffres lausannois avec la cohorte Colosse dont vous avez aussi déjà souvent parlé, dont les 5000 participants ont rempli un questionnaire douleur et on a 40% de douleurs chroniques. Pas forcément articulaires, mais les localisations les plus fréquentes sont le dos, les genoux et les épaules en trois premières positions, donc des articulations.
Est-ce que l'âge intervient ?
La cause la plus fréquente étant l'arthrose, c'est vrai qu'elle a une tendance à augmenter avec l'âge.
À quel moment est-ce qu'une douleur articulaire devient réellement invalidante ? Au fond, c'est normal que les articulations s'usent, on est fait pour vieillir. À quel moment est-ce qu'il faut s'inquiéter finalement ?
Alors il y a un des problèmes de maladie de type arthrose, c'est la douleur, c'est probablement le plus gros problème. On peut aussi avoir une limitation fonctionnelle, une articulation qui est un peu moins ample. On n'a pas toujours besoin de toute l'ampliation pendant toute sa vie. Donc c'est vrai que la douleur est probablement ce qui influe le plus au niveau invalidant. Et c'est ensuite quand ça interfère avec la fonction quotidienne.
C'est-à-dire quand on n'arrive plus à faire ce qu'on fait d'habitude.
Ce qu'on fait d'habitude. Alors, chez les plus jeunes, si ça interfère avec le travail, c'est évidemment l'occupation quotidienne la plus importante à ce moment-là, ou le sommeil, typiquement.
Mmh. Mais au fond, la douleur, c'est quand même le signe que quelque chose ne va pas. Alors pourquoi est-ce qu'on devrait traiter la douleur et pas la cause, une usure ? Est-ce que ça peut se réparer, par exemple ?
Alors si on a une cause à traiter, on la traite volontiers. Typiquement, une infection d'une articulation qui fait mal, on la traite avec des antibiotiques et on peut avoir une très bonne évolution. Par contre, l'arthrose, on n'arrive pas à traiter en soi directement la pathologie et l'usure. On a de la peine à revenir en arrière. Donc si on trouve la cause, on peut la traiter. Par contre, de temps en temps, on la trouve pas, ou alors on n'a pas les médicaments pour la traiter.
On a parlé de rhumatisme, d'arthrite, d'arthrose. Juste pour clarifier un petit peu la différence entre...
Alors, très grossièrement, l'arthrose est une usure de l'articulation et l'arthrite serait plutôt un des phénomènes auto-immuns, où le corps lui-même agresse ses propres articulations, si on veut. Donc les médicaments vont être différents pour les deux pathologies, même si les symptômes, qui seront une douleur à l'articulation, pas toujours les mêmes dans les deux pathologies, mais la douleur sera identique dans les deux maladies.
Et le rhumatisme ? C'est aussi une forme d'arthrose ?
Le rhumatisme, dans le langage courant, est pas très clairement défini, et probablement que les patients... parle de rhumatisme en pensant simplement douleur articulaire. Et c'est vrai que nous ensuite, on a soit une arthrite, soit une arthrose, mais dans le langage courant, probablement les gens ne font pas forcément la différence.
Si un patient vient vous voir en disant, ben voilà, j'ai mal à un genou, ben j'ai mal à une épaule ou à tel endroit dans le dos, est-ce que par imagerie médicale, je sais pas, IRM, radio, etc., ça peut se voir, ça peut se confirmer, le diagnostic peut se confirmer ?
Alors, on ne voit pas la douleur, ouais, qui par définition est subjective, donc on la voit pas sur l'imagerie, on la voit pas par des examens sanguins, ce qui est de temps en temps difficilement compréhensible pour les patients qui ont beaucoup d'examens et qui on dit toujours on voit pas la douleur sur vos examens. On peut prendre l'exemple d'une photo d'un téléphone. Vous pourrez pas nous dire est-ce que le téléphone est en train de sonner sur cette photo ou pas.
C'est clair. Ouais.
Donc ça nous aide à trouver la cause, mais on n'est jamais certain. Donc s'il y a une bonne corrélation entre une image d'une pathologie et puis la douleur du patient, on se dit que probablement que c'est pas une coïncidence, mais on n'est jamais sûr. Mmh.
Est-ce qu'il y a d'autres marqueurs qui sont disponibles, des prises de sang qui montreraient une souffrance, une douleur, l'origine d'une douleur?
Alors, ça montre de nouveau jamais l'origine de la douleur à coup sûr. Par contre, ça permet d'aller vers un diagnostic. Certains marqueurs typiques d'une arthrite peuvent nous faire trouver le diagnostic, mais ça ne va pas forcément nous donner la clarification à coup sûr de la cause de la douleur.
Dans le cas particulier des maux de dos, en particulier les lombalgies, donc le bas du dos, Marc Sutter, vous proposez parfois des infiltrations. Comment ça marche?
Alors, on propose des infiltrations de plusieurs types. La première, de nouveau, la lombalgie peut avoir des causes multiples. Donc, une partie de nos infiltrations permet aussi d'aider au diagnostic. Si on veut, on va endormir une structure qui pourrait être responsable de la douleur. Et si le patient ou la patiente n'ont plus mal après l'infiltration, on se dit qu'on a endormi la bonne structure. Et ensuite, on peut éventuellement faire un geste thérapeutique, comme brûler ou congeler le petit nerf qui va à cette structure. Ça, c'est une des options. Et sinon, c'est vrai qu'on peut, avec l'aide de cortisone, par exemple, mise à l'endroit d'une inflammation aussi, aider beaucoup les patients.
Mais c'est totalement pragmatique. Alors, ce que vous dites, vous essayez un endroit, ben, c'est bien si ça marche, quoi.
Alors, pour certaines choses, c'est pragmatique, dans le sens que les images vont pas nous donner la cause de la douleur. Donc, si on coupe la ligne de téléphone entre la cause de la douleur et le cerveau, ça peut nous montrer quel est vraiment l'endroit qui faisait mal. Donc on a une partie qui est assez pragmatique et donc de temps en temps on fait des infiltrations qui servent à rien selon le patient. Nous par contre ça exclut une structure cause de douleur et puis on peut aller en chercher une autre ou proposer ensuite d'autres traitements. Mais il faut toujours bien l'expliquer au patient parce que lui évidemment est déçu parce qu'il pensait être guéri par l'infiltration et pour nous c'est de temps en temps un geste purement diagnostique. Donc il faut bien leur expliquer le concept.
À quel moment vous proposez ce genre de traitement aux patients? À partir de quelle durée de douleur?
Alors, la durée n'est pas forcément un critère. Même si ça fait finalement quelques jours que les patients ont mal, certaines infiltrations peuvent être proposées. Et ces infiltrations diagnostiques, comme elles sont souvent pas thérapeutiques, elles sont très peu risquées. On les propose très volontiers à beaucoup de patients parce que le risque est vraiment assez faible.
Il y a des contre-indications aux infiltrations?
Il y en a assez peu. La première, ce serait le refus du patient, bien
oui,
évidemment. Et sinon, c'est plus des causes, des patients qui sont sous anticoagulants, par exemple, où on a toujours crainte, quand on place une aiguille quelque part, que ça saigne à cet endroit.
Est-ce qu'on peut utiliser, alors on l'utilise dans le cas des lombalgies, mais est-ce qu'on peut l'utiliser dans d'autres types de douleurs, plus haut dans le dos, dans les cervicales ou bien dans d'autres douleurs articulaires?
Alors on peut utiliser le même concept pour toutes les articulations. Finalement, on peut soit infiltrer l'articulation elle-même avec par exemple de la cortisone ou des anesthésiques locaux pour diminuer la douleur, ou faire des blocs, des petites structures nerveuses qui vont à l'articulation, de nouveau à titre diagnostique d'abord et ensuite éventuellement thérapeutique.
Donc ça, c'est pour la partie lutte contre la douleur, mais il n'y a pas que ça. Il y a la réhabilitation, le fait de se remettre en mouvement. Jan Neuberg, c'est votre spécialité. À quel moment vous intervenez dans une douleur articulaire?
Ça peut être au début, ça peut être en cours de route aussi. En fait, à la fois pour essayer de comprendre quelle est la cause de la douleur, en investiguant beaucoup en fait, l'histoire du patient, essayer de corréler avec la radiographie, puis après proposer en fonction de ce qu'on voit des différents traitements musculaires pour essayer soit de lutter contre la douleur ou surtout reprendre confiance, parce que beaucoup de personnes en fait, ont peur de se blesser. Qui n'a pas eu mal en se penchant en avant, en se disant bon, « je ne vais plus faire ça ». Puis au finir, au lieu d'être aidé, mais en fait, on ne fait plus le mouvement et on perd la spontanéité du mouvement.
Mais vous parlez de musculature, alors qu'on est dans une douleur articulaire. Quel est le lien entre le muscle et l'articulation?
En fait, l'articulation, c'est une structure qui bouge, qui est entourée par des ligaments, qui va guider le mouvement. Mais le mouvement en soi est fait par la musculature. Donc, c'est un peu, en fait, ils font une bonne coordination, en fait, entre des muscles qui plient et d'autres qui étendent un muscle. Et ici, en fait, les douleurs apparaissent souvent quand il y a un déséquilibre. Vous avez un muscle qui est trop fort par rapport à un autre. Et en fait, c'est pour ça que justement que vous pouvez avoir beaucoup d'arthrose sans beaucoup de douleur si vous avez une excellente musculature. L'inverse est aussi vrai, et ça, beaucoup de patients se trouvent confrontés, c'est qu'on arrive avec des radios, entre guillemets, normales, puis on a mal, mais en fait, c'est parce que la musculature ne travaille pas comme il faut.
Jon Nordberg, vous avez précisé, bon, ça se comprend, qu'on perd la spontanéité d'un mouvement, quand ce mouvement nous fait mal, évidemment, on évite de le faire, mais elle peut se réacquérir, cette spontanéité, si la douleur persiste.
On peut. C'est pour ça que c'est important d'essayer donc, de traiter assez rapidement la douleur, pour essayer de le calmer par des médicaments, éventuellement avoir recours à des infiltrations, puis après, en fait, montrer que ce n'est pas délétère. Hein, que c'est en bougeant, je ne vais pas aggraver la situation.
Au contraire
hein,
Au
contraire de ce qu'on peut croire. Quoi.
Ouais.
Hein, et beaucoup de personnes sont toutes étonnées, de dire, mais en fait, j'arrive à faire des choses que je croyais plus capables. Hein. Là, on a instauré des programmes justement de restauration de la fonction. Justement, on travaille sur la mobilité, la force, et montrer qu'en fait, malgré la douleur, vous êtes capable. Puis progressivement, c'est de plus en plus facile et moins en moins douloureux.
Donc, cette combinaison ontalgie d'un côté, donc suppression de la douleur, et activité ou reprise de l'activité, on comprend qu'elle soit utile. Est-ce qu'elle est valable pour toutes sortes de douleurs articulaires, pour toutes les douleurs articulaires ?
Oui. Je dirais vraiment pour tout, parce que seul, vous n'arriverez pas. Et c'est une des raisons souvent des échecs, des infiltrations aussi, c'est qu'on a oublié de réactiver la musculature. Donc, il faut vraiment combiner les deux. Si vous combinez les deux, alors là, vous allez avoir une bonne évolution.
Vous disiez tout à l'heure qu'il y a des gens qui arrivent avec l'arthrose, qui ont beaucoup d'arthrose, mais comme ils ont une bonne musculature, ils ont pas mal. Donc, ça laisse entendre qu'il faut développer sa musculature, mais une musculature particulière ou toute la musculature?
Disons, de manière globale, c'est la musculature. En fait, les études sur iroquois ont montré que ce qui est important dans la musculature, c'est d'avoir une bonne endurance cardiovasculaire. Donc, ce n'est pas forcément que vous devez cibler sur un muscle particulier, mais vraiment l'endurance. C'est ça qui est le plus important.
Oui, parce que c'est ça qui est intéressant. Si un muscle qui travaille, c'est aussi un muscle qui va relarguer certaines substances qui auront un effet antalgique.
Antalgique, en plus.
Qu'est-ce que c'est comme substance?
Vous avez des hormones locales. Vous avez la noradrénaline, vous avez la sérotonine, qui sont des hormones aussi qui interviennent dans le moral. Puis ensuite, vous avez vos endorphines. Localement, donc comme votre propre morphine, en fait, qui va avoir un effet antalgique local.
Ça, c'est pour l'antalgie, le mouvement et la chirurgie dans tout ça. À quel moment est-ce qu'on la considère?
Alors, la chirurgie va avoir recours quand on n'arrivera plus avec nos autres moyens et dans certaines situations. Hein, c'est que ça dépendra de la type de douleur, ça dépendra de l'articulation touchée. Hein, ça fonctionnera bien dans les articulations périphériques, c'est-à-dire une hanche, un genou. Vous avez des douleurs articulaires liées, les plaintes sont liées avec la radiographie. Hein, mais par exemple, au niveau du dos, là, on est beaucoup moins bien. Hein, la chirurgie du dos, vous n'avez pas plus que 40-50% de chances d'améliorer.
Mais justement, dans le cas d'un genou, par exemple, quel est le taux de réussite, on va dire, le taux dans lequel on fait disparaître complètement la douleur?
Vous allez commencer à essayer, si vous pouvez préserver une partie de l'articulation, si vous avez une usure d'un côté, vous allez changer un peu l'axe, qui vous permettra de reporter une intervention plus tard. Mais quand vous mettez une arthroplastie, par exemple, de genou ou de hanche, vous avez autour de 90-95% de succès, c'est-à-dire disparition des douleurs.
D'accord.
Mais c'est important de traiter la douleur. C'est pour ça que vous venez, pas un problème de mobilité. Parce que les gens qui ne sont pas contents, c'est ceux qui ont été opérés parce qu'ils ne bougeaient pas bien.
Et le type de chirurgie, justement, vous avez dit, ben voilà, vous changez un peu l'axe d'une articulation, ça va de là jusqu'à la prothèse, en fait.
Alors, tout à fait. La prothèse, c'est donc le remplacement de l'articulation, soit une partie ou totalement de l'articulation.
Qu'est-ce qui se passe si une douleur s'installe pendant trop longtemps? Elle devient chronique?
Elle devient chronique, on a fixé la définition pour chronique, c'est 3 mois de douleur. Donc ça devient très vite chronique. Puis après, c'est d'où l'importance d'intervenir rapidement. Et aussi de manière assez agressive. Pour essayer justement de couper, parce qu'après il y a la mémoire qui va se mettre en route et vous pouvez avoir en fait un bon fonctionnement, mais en fait le cerveau va toujours vous dire, mais non, ça fait toujours mal.
C'est-à-dire que le cerveau va retenir juste la douleur et puis il va être en quelque sorte traumatisé?
Il va être en sorte, tout à fait. Donc vous pouvez avoir la peine à ce moment-là de vous remettre en mouvement et en fait on pourra même vous opérer, puis en fait la douleur persiste parce que c'était trop longtemps qu'il était là, quoi.
Mais au fond, on n'est pas tous égaux face à la douleur. on ne supporte pas les mêmes choses. Est-ce qu'il y a des facteurs génétiques qui nous rendent plus ou moins sensibles à ce genre de douleur? Je ne sais pas si...
Alors, il y a des facteurs génétiques qu'on commence à les mettre en évidence depuis qu'on a séquencé le génome humain et qu'on fait de plus en plus d'études sur le génome. Par contre, ils ne nous permettent pas encore de prédire très précisément qui va développer quel type de douleur, mais probablement qu'on va y arriver dans les années futures. Il y a déjà juste la prévalence augmentée, par exemple, chez les femmes par rapport aux hommes, qui est un des facteurs de risque qu'on
pourrait dire
génétique.
Donc elles ne sont pas plus douillettes, elles sont juste plus sujettes aux douleurs.
Alors, il y a beaucoup...
ça serait bien d'avoir une précision.
Ça va rassurer beaucoup de monde.
Alors, il y a beaucoup de facteurs pour la différence entre hommes et femmes par rapport à la douleur. Mais on sait que la prévalence est déjà un peu plus élevée chez les femmes. Donc, il y a plus de femmes qui souffrent de douleurs chroniques que d'hommes.
Vous voulez rajouter quelque chose, Yann?
Oui, justement, c'est qu'il y a le facteur génétique, puis ensuite, il y a tout l'environnement. Dans quel contexte, votre parcours de vie qui va avoir une influence. Et en fait, certaines fois, je dis aux patients, mais c'est un peu comme, en fait, on est avec un certain capital d'auto-guérison. En fonction de votre vie, vous avez vécu des situations traumatisantes. En fait, vous allez puiser là-dedans, puis arrive à un moment donné que votre corps n'arrive plus à affronter la douleur. Tout ça, c'est...
Bastien.
Marc Souter, vous avez dit tout à l'heure quelque chose qui m'a étonné. Vous avez dit que si une douleur était trop importante, vous pouviez à un moment brûler ou congeler un nerf, donc le rendre définitivement inopérant. La douleur, elle est importante pour communiquer une information. Si, de manière définitive, il n'y a plus cette information, ça veut dire que des choses peuvent s'aggraver, vous vous en rendrez pas compte et ça peut être relativement néfaste, non?
Alors c'est une excellente question. D'ailleurs, pas mal de patients nous la posent également. On n'a pas des succès tels qu'on enlève toute la douleur. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui peut être rassurant pour les patients. Et ensuite, c'est vrai que les causes traitables, une fois qu'on a exclu les choses graves, les fractures, les infections, et que le petit nerf qu'on brûle n'a plus qu'une fonction de transmettre une douleur que le patient connaît depuis des années, elle lui sert plus à rien. Donc on peut se permettre de l'enlever. Par contre, faut éviter de congeler un nerf qui aide aussi une fonction musculaire, par exemple. Ça, évidemment, c'est des choses qu'on fait pas.
Mais on parlait environnement tout à l'heure, et je pense que l'environnement, peut être une des causes de douleurs articulaires, mais on peut aussi utiliser cet environnement, en le changeant un petit peu peut-être, pour remédier à cette cause. Je connais quelqu'un qui a très mal dans le haut du dos, dans les cervicales, des choses comme ça, qui a réussi à se faire installer au travail une table qui se lève électriquement et qui se baisse et qui peut travailler debout, ce qui lui évite d'avoir toutes ces douleurs. Ça se fait communément, ça aussi?
Tout à fait. Il y a des adaptations, en fait. Si vous avez problème vis-à-vis de votre activité professionnelle. On peut avoir recours à des moyens auxiliaires pour que ça soit plus simple, plus facile. Et là, donc justement, ces adaptations sont importantes. Et il faut donc l'environnement, essayer de vous donner la possibilité éventuellement de changer d'activité professionnelle si ça devient trop gênant.
On a parlé des antidouleurs, du fait de devoir bouger, muscler. Les enfants, c'est quand même un cas particulier. Ça leur arrive aussi d'avoir des douleurs articulaires en dehors de traumatismes, d'accidents de jeu.
Tout à fait. Oui, vous avez.
Et c'est dû à quoi?
Alors, vous pouvez avoir, donc, mis à part le traumatisme qu'on vous a cité, il y a les rhumatismes. Il y a des enfants qui souffrent de rhumatisme. Puis ensuite, il y a un certain nombre aussi de douleurs lombaires, par exemple, du dos, qui viennent aussi. Donc, étonnamment, vous avez une grande proportion. Les Danois ont fait des études cohortes. 10-15% des enfants souffrent de maux de dos.
10-15%.
Et on sait quelles sont les causes?
Alors, c'est comme pour l'adulte. La majorité, en fait, c'est des causes plutôt musculaires. Donc, il y a peu d'usure. On incrimine beaucoup le sac à dos, etc. C'est plus la pénibilité. C'est-à-dire que l'environnement, de nouveau, en fait, je n'aimais pas d'aller à l'école. C'était beaucoup de tension, beaucoup de stress.
Donc le sac à dos, on peut avoir des sacs à dos lourds, c'est pas grave?
Ce n'est pas grave. C'est mieux d'éviter de le surcharger. On dit qu'il faut à peu près pas plus que 10% de poids corporel de l'enfant.
Ouais, alors j'en ai creusé un dans le métro l'autre jour, je peux vous dire qu'il avait quasiment son poids sur le pauvre petit. Oh là là, non, c'était... Donc, mais Est-ce que aussi les positions qu'on prend, je parlais de debout assis tout à l'heure, là le sac à dos avec le gamin un peu voûté, comme on s'aperçoit comme ça, est-ce que c'est important les postures qu'on a dans la vie de tous les jours? Est-ce que
alors,
ça peut
aider? Il y a beaucoup qui a été développé là-dessus, puis ensuite on se rend compte que c'est pas si néfaste que ça. On a introduit beaucoup d'interdits en disant qu'il faut plier les genoux pour prendre une charge. Aller en Afrique et regarder les femmes qui travaillent dans les champs et travaillent les jambes tendues. Hein, et en fait, toutes les idées qui développaient des années 60, qui étaient donc il fallait plier, il fallait faire ceci, cela, en fait, n'ont aucun fondement scientifique. Donc aujourd'hui, c'est plutôt, en fait, on va essayer de trouver pour chaque personne ce qui lui convient le mieux. Mm-hmm. Hein, alors ça, c'est clair que ça perturbe beaucoup chez les thérapeutes parce qu'on a eu toujours l'habitude, en fait, d'interdire, il ne faut pas faire ceci, pas faire cela. Et ça renforçait, en fait, votre inquiétude. Et vous avez pas mal de gens qui viennent me dire, en fait, mais je ne fais pas vraiment pas juste. Donc, de nouveau, on se culpabilise et on se dit, mais il faut qu'on me montre comment je dois faire juste.
Bastien.
Mais moi, je passe mon temps à dire à mes enfants, tenez-vous droit quand on est à table. J'ai plus besoin, alors.
Vous n'avez plus besoin. Hein, il faut plutôt les rendre, les stimuler à bouger. C'est ça qui est important. Hein. Donc, la posture
mais
en
pas
soi.
À table.
Pas
table,
à table.
Reste à table.
Non, mais il n'y a pas de. Au contraire, tout ce qu'on a cru, en fait. Et ça, c'est de nouvelles études et on a, depuis, disons, 4-5 dernières années, on est en train de le relancer, ça. Avec le rhumatisme aussi, justement, pour montrer que c'est pas... Pour une fois, entre Genève et Lausanne, on parle de la même voix. Souvent, ça a été toujours la contradiction.
Ça se fait.
On parlait tout à l'heure de capital pour supporter la douleur. Si on traite les enfants dès maintenant, si on leur apprend à bouger, ça va augmenter leur capital, intrinsèque?
Oui, en tout cas, ça va les encourager à bouger. Je crois que c'est le problème aujourd'hui, c'est de nouveau la sédentarité. Hein, et on est de plus en plus sédentaire, on reste, on fait de moins en moins. Et là, vous préparez le terrain. Ça part demain que vous aurez mal, mais peut-être plus tard, au lieu de sortir, de faire un sport, etc.
Et ce capital, à l'âge adulte, on peut le reconstituer?
Oui, vous pouvez. Mais ça prend du temps.
C'est une grande nouvelle, ça.
Voilà, ça prend du temps. Si je vous mets à travailler la musculature,
oui.
Hein, par exemple, pour un problème de dos, il faut compter 9 à 12 mois.
Mais en travaillant sérieusement, quoi.
Et on vous encadre, parce qu'il faut vous encadrer, vous stimuler, parce que c'est pas facile. Hein. Au début, vous êtes motivé, et puis après, ça baisse, comme dans tout ce qu'on fait.
Et j'en sais quelque chose.
Oui. 9 à 12 mois, oui. À raison de combien de séances par semaine?
Il faut que vous fassiez 3 fois par semaine, à peu près une demi-heure, une activité sportive. Alors, comme les gens ne savent pas ce qu'on veut faire, nous, on a créé un site internet avec la Ligue du rhumatisme, qui est monsport.ch. qui part d'une toute simple, en fait, questionnement, comme ce que vous trouvez dans certains journaux du dimanche, qui permet de savoir quelle personnalité vous êtes. Puis après, on vous demande, en fait, où vous avez mal. Et à partir de ça, le logiciel vous propose sur 64 sports, partant de la danse jusqu'à la lutte suisse.
Donc, il y en a pour tout le monde.
Il y en a vraiment pour tous les goûts. Merci beaucoup, merci à Marc Souter, médecin associé au centre d'ontalgie du CHUV. Vous étiez accompagné par votre confrère Yon Norberg, médecin chef de clinique adjoint en réhabilitation également au CHUV. Et si donc le sujet vous interpelle, ben ne manquez pas demain soir la conférence publique qui va se tenir ici à Lausanne ou au CHUV. Vous y retrouverez nos invités du jour et puis leurs collègues aussi qui partageront leurs connaissances sur les rhumatismes, la douleur, la réhabilitation, l'ontalgie. C'est demain à 18h au CHUV.
À l'hôpital Beaumont, très précisément.
D'accord.
29 avenue de Beaumont. Les informations seront sur notre site internet.
rts.ch/CQFD et allez voir aussi www.monsport.ch. Bonne journée, messieurs.
Merci, bonne journée.
CQFD sur la première.